Rouar Azman, l'esprit du temps, une émission d'Alexandre Rosenberg.
Bonjour à tous. Notre année est rythmée par les mois qui se succèdent, les anniversaires, les jours de la semaine, ainsi que par les fêtes du calendrier. Le décompte de l'Omer commencé 7 semaines plus tôt, au lendemain du second soir de Pessah, s'achèvera demain soir après Shabbat et commence parallèlement la fête de Shavuot qui se poursuivra les dimanches 5 et lundi 6 juin. Shavuot, qui veut dire semaine en hébreu, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par le Tanakh au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé. Mais d'un point de vue rabbinique, la fête de Shavuot est le moment de renouveler notre acceptation du don de la Torah sur le mont Sinaï il y a 3300 ans. Et ainsi de fêter le serment d'alliance perpétuelle de l'Éternel avec son peuple et nous, de lui renouveler notre engagement de fidélité éternelle. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Merci de venir nous expliquer un petit peu Shavuot. À l'époque, David, le don de la Torah a dû être un événement spirituel d'un impact que l'on peut même pas soupçonner.
Oui, parce que le don de la Torah a été quelque chose de très très particulier. C'est, rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël ont demandé à quitter l'Égypte, c'était pour servir Dieu et recevoir la loi. Et le don de la Torah, lorsqu'il a été...
Ils étaient déjà prévenus à l'époque ?
Oui, ils étaient prévenus.
Juste avant de partir, ils étaient prévenus.
Oui, mais d'ailleurs, ça a été, je dirais, ce que Moïse a dit à Pharaon. Nous allons quitter, faire la fête pendant quelques jours, derer Shelochet Yamim, 3 jours, et puis nous recevrons la loi divine. C'est-à-dire que le don de la Torah, ça a été un moment qui a été prévu déjà depuis la création. Et nos sages disent que le monde a vécu, c'est pratiquement cette 26 générations. 26 générations, c'est le tétragramme, c'est le nom divin, le Yudke Vavke. Et il fallait donc le mérite, bien sûr, des ancêtres, le mérite du Ham Israël, mais le fait de recevoir la Torah, il y a d'ailleurs, juste pour rappeler, souvent le Talmud utilise ça. On voit par exemple Abraham dans l'Écriture, on a vu qu'il a mélangé le lait et la viande. Donc la restriction en elle-même n'existait pas. Il y a ce qu'on appelle avant Matan Torah, avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Voilà que pour recevoir la Torah, ça a été toute une préparation et ça a été un chamboulement parce que on le verra. Parce
Mais ça n'était pas simplement un chamboulement pour les Hébreux, ça a été aussi peut-être un chamboulement sur toute la région.
Mais complètement, parce que c'est Dieu lui-même qui s'adresse. Rappelez-vous, au départ, le peuple va dire à Moshe, parle. Nous, toi, directement, et que Dieu ne nous parle pas parce que on n'est pas suffisamment encore prêt d'avoir non seulement, on ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester vivant, parce que il y a un texte, un midrash qui dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, leur âme a quitté le corps et Dieu a dû rappeler l'âme à leur corps. Donc ça voudrait dire que ça a été une préparation et ça a été quelque chose, le monde dans sa totalité a tremblé. Parce que c'est la voix divine, c'est Dieu qui s'adresse, pas uniquement au peuple d'Israël, il va s'adresser bien sûr au peuple d'Israël, mais c'est l'ensemble des nations qui ont écouté, qui ont vu l'impact de ce jour-là, de ce grand jour du don de la Torah.
Je le disais dans ma présentation, la fête de Shavuot est le moment de renouveler notre acceptation du don de la Torah sur le mont Sinaï, mais aussi, c'est le prétexte peut-être, comme dans un mariage, de revivifier le serment d'alliance perpétuelle de l'Éternel avec son peuple, et pour nous, de renouveler à son égard notre engagement de fidélité éternelle. Qu'est-ce que vous en pensez, David ? Est-ce que c'est bon, cet échange ?
Bien sûr. D'ailleurs, vous avez pris l'exemple le plus parfait, c'est le mariage. Dans un mariage, il y a ce qu'on appelle une ketouba, un contrat de mariage. Et dans ce contrat, il y a les devoirs que les mariés... que le mari...
Les 10 commandements, ça serait donc la ketouba?
Bien sûr.
La ketouba du peuple
bien
juif,
sûr.
Alors.
D'ailleurs, ce jour-là, nous lisons une ketouba. Et dans cette ketouba, nous disons « Mashé Talmid Vatik », c'est-à-dire ce qu'un élève authentique doit apporter, ce qu'il doit renouveler. Parce que la Torah en elle-même ne doit pas être figée, on ne peut pas uniquement... Ce que l'on a appris hier ne suffit pas. Parce que la Torah est comparée justement aux océans. Et ce qui régit dans un couple entre l'homme et la femme, c'est la ketouba. La ketouba, c'est le contrat. C'est ce qui nous rappelle à l'ordre. Eh bien, ce jour-là, nous lisons un contrat et nous rappelons qu'il y a non seulement les 248 mitzvot positifs et les 365 négatifs, et il y a aussi en dehors de cela ce que nous appelons dans le jargon de la ketouba les obligations qu'un mari a vis-à-vis de son épouse. Il y en a 3 en réalité instituées par la Torah, il y en a 7 que les sages ont rajoutées. Il y a les 248 positifs et les 365 négatifs, mais il y a aussi ce que le mari peut faire en plus. Rien n'interdit à un mari de rajouter afin d'apporter la sérénité et d'avoir des moments de paix dans le couple. Eh bien, c'est la même chose avec la Torah.
Alors justement, comme vous parlez de Torah, la Torah, code, loi, règlement, prescription, toute la vie juive est encadrée. On a vu que les Hébreux n'étaient pas faciles à guider et à gérer. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour imposer la Torah ?
Mais bien entendu.
Est-ce qu'on peut dire imposer simplement?
La Torah a été imposée. Après, rappelez-vous, l'histoire de la Torah, c'est Naase Venishma. Nous ferons. Quand on fait, on ne comprend pas. Nishma, c'est comprendre. Mais pour comprendre dans la Torah, il faut faire. Mais le monde de la Torah, c'est un monde de restrictions.
Donc en fait, c'est de la pratique.
Oui, mais il y a d'abord les règles qui viennent avant la pratique. Il y a la connaissance qui nous mène à la pratique. Parce que si on ne connaît pas, si on ne fait uniquement par ce que l'on a vu, on peut mal faire. Parce qu'on n'a pas appris. Mais il faut juste tout simplement rappeler que ce peuple-là qui était ancré dans la société moderne de l'époque, qui était la société égyptienne, ils étaient complètement endoctrinés, complètement, je dirais, dans une impureté la plus totale. Ils n'étaient plus rattachés, je dirais même, aux us et mœurs et coutumes des ancestrales, c'est-à-dire ce qui a été transmis par les patriarches, par les 12 tribus, etc. Le peuple juif ayant vécu en Égypte, il a complètement abandonné même
le peuple. Oui, c'est un petit peu assimilé, quoi.
Complètement. Et donc, quand il arrive là, c'est le contraire. C'est tout le contraire de... La Torah va lui imposer des règles qui sont complètement contraires à ce qui se faisait en Égypte. À tous les niveaux, hein, bien entendu.
Alors, on va revenir à Shavuot. On dit, les rabbins ont dit que, justement, Shavuot est arrivé, et le don de la Torah, donc, est arrivé 50 jours après la sortie d'Égypte. Si, dans ce laps de temps très court...
Oui, parce que en réalité, nos sages disent qu'il y a dans les degrés d'impureté, il y a 50 portes. Les enfants d'Israël ont atteint pratiquement le maximum au niveau de l'impureté. Donc il leur fallait ces 50 jours pour pouvoir se préparer quelque part, enlever tous les jours...
Physiquement, mentalement.
Voilà, physiquement, mentalement, et tous les jours ôter ces degrés d'impureté qui les avaient atteints. Et c'est la raison pour laquelle le don de la Torah n'a pas été fait de suite, parce qu'il fallait une préparation. Il faut se préparer. Il faut être habitué, quand on va dire à quelqu'un du jour au lendemain, il faut faire Shabbat, il y a des activités interdites le Shabbat, il y a des règles concernant les mélanges, etc. Et tout cela, ne serait-ce que pour intégrer le monde de la restriction, il fallait passer de l'impureté, se purifier, et par la suite pouvoir...
Oui, il y avait des stades, donc automatiquement.
Complètement. Et donc c'est 50 jours, en même temps, ce que je voulais dire, le chiffre 50 dans la Torah, nous l'avons lu la dernière fois, c'est l'âge où on peut commencer à a donné quelques conseils. Donc, c'est-à-dire que le chiffre 50, c'est l'âge où on se prépare à recevoir des conseils, parce que là, on était encore dans la pureté. Donc, ce chiffre-là, c'est le chiffre de la maturité, si j'ose dire.
Alors, on va revenir à Shavuot, mais d'une manière un petit peu plus terre-à-terre, David. Shavuot, ça veut dire semaine.
Oui.
Semaine en hébreu, et Shavuot, c'est au pluriel. Vous me voyez venir, David.
Oui.
Bon, alors pourquoi simplement d'abord au pluriel, et pourquoi Shavuot, ça correspond donc à cette semaine.
Tout à fait.
Alors pourquoi pas, le mot 7 en hébreu, c'est Sheva, alors pourquoi on dirait pas Sheva Shavuot?
Alors, dans la Torah, c'est marqué Shiva Shavuot Isporlar. Tu compteras 7 semaines. Mais ce qui compte, c'est les semaines qu'il faille compter.
Oui, mais c'est 7 quand même. C'est pas semaine. Oui. Semaine, c'est il n'y a pas de chiffre. On ne sait pas. Semaine, ça peut être 2, 4, 6, 8,
oui,
26.
Mais nous le savons. Nous savons qu'il y a 7 semaines. Tout le monde l'a intégré dans la mesure où tout le monde a compté le Homer.
Donc l'Homer, 7 semaines.
Le compte du Homer au bout.
Donc c'est subjectif alors.
Tout à fait. Au bout de ces 7 semaines, eh ben forcément c'est Shiva, Shavuot. Et d'ailleurs, la fête de Shavuot n'a pas que ce terme-là. Elle a d'autres noms en hébreu. C'est le don Matan Torah, le don de la Torah, Hag Abikurim, la fête des prémices, Hag Hakatsir, la fête de, comment dirais-je, de la moisson. Donc la fête, c'est vrai qu'elle est plus en relation avec la fête de Pessah, parce que de toutes les façons, elle dépend entièrement de Pessah, parce que c'est un décompte que l'on fait pour arriver
au deuxième soir de Pessah.
À partir du deuxième soir, bien entendu, au lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour, et on arrive à la fête de Shavuot.
Mon invité ce matin, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, avec lui, nous entretenons de Shavuot. Les fêtes rabbiniques sont souvent doublées de fêtes agricoles. Shavuot en est de celle-là mentionnée pour la première fois comme la fête de la moisson, puisque c'est le début de la saison de la moisson du blé, bien sûr au Moyen-Orient. Cette fête fait suite à la fête des Azim, c'est-à-dire Pessah, vous venez d'en parler, et précède la fête de la récolte dans le cycle agricole annuel. Cette fête, elle n'était pas toute seule comme ça. Il y avait le temple à l'époque. Donc, il y avait une relation avec le temple et la fête de Shavuot. Est-ce qu'on allait, par exemple, faire des offrandes à ce moment-là?
Bien sûr. Il y avait d'abord des règles d'offrandes, les pains de proposition.
Il y avait les miches,
oui, tout à fait. Les lechem à panim. Il y avait aussi les bikurim, les prémices. Il faut juste rappeler que...
Alors, les prémices, ce sont les premiers fruits l'on obtient d'un certain temps,
Bien sûr. On va rappeler au passage que lorsqu'on plantait un arbre, les trois premières années, il y a ce qu'on appelle les règles de la Orla, c'est-à-dire ces trois premières années, les fruits ne sont pas consommés, donc on attend la quatrième, et la cinquième année, on les ramène à Jérusalem. Bon, tout cela, bien sûr, peut-être en si peu de temps, on ne pourra pas expliquer, mais les prémices, c'est-à-dire à Bikurim, il y a le mot Bechor, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire on donne le premier toujours à Dieu, afin que Dieu nous donne. C'est la notion un petit peu aussi d'échange et de tzedaka. Mais il faut aussi rappeler que c'est la fête de Shavuot, c'est une fête de pèlerinage. La fête de Shavuot, elle est particulière.
Donc
parce
à ce moment-là, par exemple, pendant la splendeur de Jérusalem, tout le monde allait au temple, tous les Hébreux.
Oui, bien sûr. Il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot. C'est ce qu'on appelle les Shalosh Regalim. Et ces fêtes-là, particulièrement la fête de Shavuot qui était que sur un jour, parce qu'il faut le rappeler, la fête de Shavuot c'est un jour.
Sauf ici en Angola.
Oui,
en
Angola, bien entendu, on parlait de à l'époque. En dehors d'Israël, bien sûr, pour les raisons que nous avons rappelées la dernière fois, ce qu'on appelle Safika de Yoma, parce qu'il y a le doute, est-ce que c'est le bon jour, pas le bon jour. En tout cas, même si de nos jours on a un calendrier bien établi, le deuxième jour est toujours plus que d'actualité en dehors de la terre d'Israël. Mais il faut dire tout simplement que ce jour-là de Shavuot, en l'occurrence dans le temple, il remplaçait pratiquement une semaine de fête de Pessah ou de Sukkot. Donc la particularité de la fête de Shavuot, elle était importante pour les pèlerins, parce qu'en même temps, n'oublions pas, vous avez parlé tout à l'heure de la moisson, mais la fête de Shavuot, en même temps, c'est le nouvel an des fruits. C'est le renouvellement des fruits, c'est-à-dire c'est en réalité c'est l'abondance qui arrive après avoir
c'est ce qu'on voit sur les marchés actuellement.
Oui, oui, tout à fait. Après avoir semé, etc., coupé, récolté, eh bien aujourd'hui la fête de Shavuot, elle s'appelle Hag HaPerot aussi, la fête des fruits, c'est-à-dire le fruit. Les fruits, dans le langage dans la mystique juive ou tout simplement dans le Midrash, c'est la résultante ou le résultat des efforts qu'on a pu faire tout au long des années pour arriver au jour de Shavuot et goûter ces fruits que l'on a bien, comment dirais-je, que l'on a que l'on a engrainé pour pouvoir mieux les consommer le jour de Shavuot.
Alors justement, puisqu'on parle de Jérusalem et de la splendeur de Jérusalem, vous vouliez nous parler, David, de cette lignée Ruth, Salomon, David.
Oui, parce que d'abord, il y a toute une controverse dans le Talmud, parce que on parle de l'ancêtre de David, et donc David étant le père de Salomon, Shlomo HaMelech, Alav HaShalom, c'est celui qui a construit le temple. Rappelez-vous au passage que David ne pouvait pas, il était guerrier, alors que celui qui allait construire le temple devait être un homme de paix. D'ailleurs, le mot Shlomo, Shalom, il y a ce côté de paix, cette étymologie qui nous rappelle que la maison de Dieu, c'est la maison de la paix. C'est comme le nom de Dieu, Shalom. Il faut rappeler que celle qui a donné naissance à cette lignée n'est autre que Ruth la Moabite. Et nous avons un texte...
Qui n'était pas juive au départ.
Oui, elle n'est pas juive. On connaît l'histoire, d'ailleurs, c'est la magnifique histoire que nous lisons pendant les deux jours de Shavuot, le livre de Ruth, et j'invite tout le monde vraiment à le lire. Il faut savoir tout simplement que Ruth la Moabite, selon les écrits de la Torah, les Moabites et les Ammonites sont deux peuples très particuliers qui ne pouvaient en aucun cas se convertir au judaïsme. Alors, le texte nous donne la raison. Il nous dit, parce que quand vous étiez sortis d'Égypte, ils ne vous ont pas proposé ni de pain, ni d'eau. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'hospitalité. Non, ça, je pose la question, mais on ne peut pas exclure un peuple uniquement parce qu'il n'a pas proposé son hospitalité. Alors on nous dit tout simplement...
Il y avait peut-être des raisons.
Il y a une raison encore beaucoup plus profonde. En réalité, quand on prend le peuple de Ammon et Moab, ces deux peuples-là sont nés grâce à qui ? Grâce à l'intervention de notre patriarche qui s'appelle Abraham. Rappelez-vous que Ammon et Moab, ce sont les deux filles de Lot qui, suite à la... Comment dirais-je, lorsque Sodome a été détruite, ils se sont réfugiés dans les grottes, dans les montagnes, et ils se sont accouplés leur père. C'était parce qu'ils pensaient que le monde avait été détruit, et ils ont eu donc deux enfants chacune. Donc enfin, ils ont eu Ammon et Moab, et ces Ammon et Moab sont nés par l'intermédiaire d'Abraham qui a sauvé Lot. Si Lot n'avait pas été sauvé par Abraham, ces deux nations-là n'auraient pas vu le jour. Et donc, la Torah, elle va loin, elle ne va pas uniquement sur le pain et l'eau, c'est nous dire, lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, ce qu'on appelle en hébreu Hakarat Hatov, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous fait du bien et que vous lui tournez le dos, c'est ce qu'il y a de pire dans la Torah. Donc, c'est Ammon et Moab ne pouvaient en aucun cas être converti et faisant partie du peuple juif. Mais là, les sages, justement, lorsqu'ils ont pris le texte, c'est marqué Lo yavo Ammoni ou Moavi. Nos sages disent que Ammoni et Moavi, ce sont les mâles, c'est-à-dire les hommes. Mais les femmes n'étaient pas incluses dans l'interdiction. Et donc il y a tout un Talmud qui a dit non, c'est effectivement Ce sont les hommes qui ont été en guerre et qui sont sortis. Les femmes n'ont rien fait, donc qu'il ne faille surtout pas les, comment dirais-je, les pénaliser. Et c'est dans ce cadre-là que le Beddin de l'époque a imposé que David Ameler, à la Vacham, le roi David, était juif, parce que sinon, on aurait dit, mais Ruth, étant donné qu'elle s'est convertie, mais cette conversion ne tient pas dans la mesure où Amon et Moab ne peuvent pas se convertir. Donc on a dit que c'était les hommes et pas les femmes. Et enfin, de nos jours, on ne connaît plus ces peuples. Tous ces peuples, on va dire, de l'époque de la Torah, ont été entièrement mélangés. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui à quelqu'un qui viendrait se convertir, non, on ne te convertit pas parce que tu fais partie de tel ou tel peuple. Bien entendu, ce qui va, comment dirais-je, ce qui va activer la démarche de la personne, c'est sa volonté, son envie d'appartenir à la nation, et bien sûr, et l'acceptation par la suite des mitzvot. C'est ce qui a été fait par Ruth la Moabite. D'ailleurs, on le voit, elle a accepté, ton Dieu est le mien, ce que tu feras, je ferai. Donc, elle s'est, finalement, elle s'est contentée de très peu. Et ça, ça nous donne une vraie leçon de vie. Et
elle nous a donné une belle lignée. David, la fête de Shavuot, on va revenir à la fête de Shavuot cette fois-ci, c'est une fête où les jours sont chômés. Aucun travail ne peut être accompli. Mais il y a aussi de nombreuses traditions qui accompagnent la fête de Shavuot à la synagogue et chez soi. Alors, quelles sont ces traditions? Par exemple, à la synagogue.
Alors, à la synagogue, on a l'usage, donc, la veille, donc samedi soir, de ceux qui font la veillée pour réparer au fait parce que la Torah doit être lue, doit être accomplie le jour comme la nuit, donc il y a une forme de réparation. Nous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, certains diront que la nuit précédente ils avaient dormi. Donc pour réparer cela, on veille toute la nuit et on lit pratiquement toute la Torah, bien entendu. On ne va pas lire la totalité de la Torah, on va prendre par exemple chaque paracha, les trois premiers versets et trois derniers, et on va finir tout le Tanakh. On va aller sur la partie ensuite la loi orale, Mishnah, Gemara, etc., et la partie mystique, et les 613 mitzvot. Donc on veille, on a l'usage de veiller, et de faire suivre l'office. D'ailleurs, c'est ce que nous ferons, on fait suivre l'office, et dans cet office-là, il y a les 10 commandements qui sont lus. Et d'ailleurs, nous, on les relit le lendemain.
Le fameux contrat de mariage.
Ouais, complètement, les 10 commandements. Le plus que fameux mariage, contrat de mariage, pardon, c'est ce qui va. Les 10 commandements, c'est ce qui est au-delà de l'universalité. C'est Dieu lui-même qui parle.
Il y a aussi des traditions culinaires. Alors, il faut des repas festifs et il est de coutume de consommer des aliments lactés à Shavuot. Pourquoi lactés?
Alors, c'est vrai que le lait...
Par il y a exemple, ceux qui prennent du beurre, oui, couscous au beurre.
Oui, par exemple, il y a ceux qui prennent du lait, qui mangent aussi un peu de miel, parce que la Torah a été comparée au lait et au miel. Et c'est vrai que...
Halav
ou de vache. Et il y a aussi ceux qui diront que, avant le don de la Torah, les enfants d'Israël mélangeaient le lait et la viande. Et donc, quand ils vont recevoir la Torah, donc il va falloir séparer les vaisselles. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler au passage, on fera dans ce sens-là, de manger d'abord du laitage, bien sûr un laitage qui est facile, qui est doux, et par la suite, soit se rincer, attendre quelques minutes pour pouvoir, si on veut, manger un plat lacté. Mais je veux aussi rappeler au passage qu'il y a la coutume, mais il y a l'obligation. L'obligation religieuse, un jour de fête, est de manger de la viande et de boire un peu de vin. Parce que la vraie joie était symbolisée
combien
par les
temps,
sacrifices.
Combien de temps on doit attendre après le...
Oh, quand on a mangé un petit peu de laitage, on n'est pas obligé d'attendre longtemps. On peut, par exemple, prendre ça le matin, bien se rincer la bouche, manger un petit morceau de pain. Bien sûr, bien entendu, il ne faut pas prendre des fromages durs. Voilà, si on prend ça posera pas de
deux, trois
problème.
Heures à peu près.
Non, on peut même dans
le matin, le midi, quoi.
Oui, on peut même dans les 10 minutes, un quart d'heure, se bien se rincer la bouche et manger. Mais ce qui est surtout important, c'est surtout de faire un repas carné, parce que c'est le jour de fête, est symbolisé par cette joie la joie des sacrifices et la joie de ce vin qui allait sur l'autel, sur le Misbéar. Donc elle était symbolisée par ça. Et puis il y a une autre, je crois que dans beaucoup de contrées, la Torah est comparée aussi à l'eau. Alors dans beaucoup de petites villes et de petites communautés, les enfants ont l'habitude de s'envoyer de l'eau ce jour-là à Shavuot, parce que la Torah est comparée à l'eau, l'eau qui n'a pas de, qui est dans l'infini.
Le deuxième jour de Shavuot, puisqu'ici en France et en Angola, on respecte donc deux jours pour Shavuot, c'est un jour particulier aussi.
Oui, c'est un jour particulier parce que, bien sûr, nous ne lisons pas, comment dirais-je, les dix commandements, mais il y a une autre Ketouba aussi qui est écrite sur certains livres, bien sûr, pour les juifs de diaspora. Et puis, il y a la deuxième partie de Ruth qui est lue, il y a ce qu'on appelle les 613 mitzvot, la partie négative. Le premier jour, nous faisons la partie positive et le deuxième jour, négative.
Et puis, on se souvient aussi.
On se souvient complètement. Et puis, l'usage dans notre communauté est vers la fin de l'office, avant la prière de Moussaf et de faire le Yizkor. Et là, et d'ailleurs, toutes les grandes fêtes, nous faisons le Yizkor parce qu'il est impératif à chaque fois de rappeler la mémoire de nos chers disparus pendant ces moments de joie, parce qu'on doit aussi les faire participer avec nous dans ces moments de joie.
Mon invité ce matin était David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Avec lui, nous avons évoqué la fête de Shavuot. Merci David, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions.
Merci à vous, je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Merci David. Vous avez pris l'émission en cours et vous voulez la réentendre. Les podcasts audio sont à retrouver sur les sites de vos radios respectives. RCN pour Nice, Radio Judaïque à Strasbourg, RJL à Lyon. Vous préférez peut-être les images, la vidéo de l'émission, ainsi que toutes les émissions précédentes, avec une mise en image et prise de son de Gérard Zawi, sont à retrouver en allant sur YouTube et dans la case Recherche, écrivez Judaïcane. Prochaine émission dans 8 jours. En attendant, comme nous sommes vendredi, Shabbat Shalom. Bonne semaine à tous.
Alexandre Rosenberg vous a proposé Ruach Hazman, l'esprit du temps.